BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretz.
La famille BFM Business, c'est la demi-heure où on peut parler de tout, à condition que ce soit en rapport avec les marchés financiers, évidemment. Et on accueille cet après-midi Julien Marion. Bonjour Julien.
Bonjour Stéphane.
Avec nous également Romain Daubry, spécialiste des marchés d'un point de vue technique, marchés dérivés, info d'experts de Bourse Direct. Salut Romain. Merci bonjour, d'être avec nous. D'abord un mot sur cette séance. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence beaucoup mieux cette semaine que la précédente. Hein.
Oui, enfin, on est surtout sur... J'ai un peu du mal à voir sur quoi on achète la hausse. Parce que, si vous voulez, on n'a pas de grand rendez-vous aujourd'hui. Hein. Les grands rendez-vous, ils arriveront plus tard dans la semaine, notamment l'indice PCE. Puis évidemment, on surveille les rapports de force politique. Les derniers sondages donnent quand même plutôt une avance de plus en plus nette. En tout cas, dans le sondage BFM qui est sorti ce week-end au Rassemblement National, ce qui est normalement plutôt de nature, si vous voulez, à créer une tension sur le marché.
Mais pour le moment, je pense... un programme économique qui est en train d'être vidé de sa substance, tout ce qui faisait peur au marché. Est-ce que le RN est en train de s'acheter une crédibilité auprès des marchés? C'est une vraie question et on l'abordera tout à l'heure.
On n'a pas la réponse.
Nos invités du club à partir de 17h. C'était pour faire la promo de la prochaine demi-heure.
Non, mais voilà. En tout cas, le marché est dans l'expectative des grands rendez-vous. Et ça, c'est clair net. Et d'ailleurs, si vous regardez, ce qui est vrai, c'est que le spread OAT Bund se resserre.
Oui.
Et ça, c'est peut-être de nature à pousser les actions françaises.
Oui. Romain Daubry, on va se pencher sur cette séance. On n'a peut-être pas donné la variation du CAC. Plus 1,16%, on est à 7717 points. On est en hausse, mais on est loin d'avoir rattrapé toute la baisse de la semaine dernière. Romain Daubry, Bourse Direct, on a une configuration intéressante. Romain, normalement, c'est plutôt un signal d'achat, mais dans le contexte, ça ne l'est pas forcément. Expliquez-nous.
Oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est le contexte aussi technique. On a clôturé vendredi l'échéance des marchés dérivés du mois de juin et on entame maintenant l'échéance du mois de juillet. Il est toujours intéressant de voir, après cette échéance, comment se comportent les opérateurs, se sont comportés les opérateurs au cours de l'échéance, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont reconduit leurs intérêts du mois ouvert le mois précédent. On avait remarqué que sur l'Eurostox, au fur et à mesure de la baisse, et notamment dans la dernière phase d'accélération baissière, il y avait eu un peu de pression baissière, des contrats futurs qui avaient été ouverts dans un mouvement de baisse. C'est un élément de pression baissière. Et puis, on avait aussi noté qu'il y avait un très gros, une grande prudence sur l'Eurostox et un pessimisme carrément sur le CAC 40 lié à la lecture du ratio put-call, le ratio du nombre d'options d'achat sur le nombre d'options de vente sur le CAC 40. Ces éléments-là nous indiquent, quand on entame le mois de juillet, que les opérateurs n'ont pas reconduit une très grosse partie des intérêts. Sur l'Eurostox, la moyenne, le nombre de contrats futurs ouverts en moyenne sur les 3-4 dernières années, c'est 3 500 000 contrats. On entame le mois de juillet avec 2 300 000 contrats ouverts et les opérateurs n'ont pas reconduit, ils ont laissé mourir 15% d'intérêt par rapport au mois dernier. C'est-à-dire que ceux qui avaient les stratégies baissières, alors il n'y avait pas que ça dans le mouvement de baisse, mais ceux qui avaient les stratégies baissières ont décidé de ne pas les reconduire dans ce contexte-là. Et ils ont complètement, se sont positionnés, complètement en retrait. Donc le marché, que ce soit sur le CAC 40 ou sur l'Eurostox, est complètement asséché du côté des marchés dérivés. Personne ne prend d'initiative. On l'avait pressenti la semaine dernière, mais ça se confirme avec cette nouvelle échéance. Quand un mouvement de baisse s'est produit, et que ces pressions s'en vont, fréquemment, c'est un point d'entrée, et quand les opérateurs sont très pessimistes, et là on le mesure nettement sur leur ratio de couverture, 1,73 de couverture, ça veut dire qu'il y a presque deux options de vente pour une option d'achat sur l'Eurostox, et c'est le cas sur le CAC 40, deux options de vente pour une option d'achat, c'est ce qu'on appelle une mesure du pessimisme, et ça c'est un signal qui peut être un signal de rebond et de hausse sur les marchés, ne serait-ce que techniquement. Or, dans le contexte actuel, on sait que...
Voilà, on est en train de perdre Romain Daubry, on a un petit problème de son, on va voir avec la régie si... on peut ajuster le son et redonner la parole à Romain Daubry. Séance en cours donc à Paris, plus 1,13%. On va peut-être passer à la question du jour. Où est-ce qu'on peut retrouver Romain? Romain, est-ce que vous m'entendez? Non, toujours pas. Merci beaucoup Romain. On va essayer de vous retrouver dans quelques minutes. La question du jour, vous savez que tous les jours, on vous propose de participer à cette demi-heure. On vous a aujourd'hui interrogé sur l'actualité politique en France et la conséquence pour les marchés actions. On vous a demandé quelles valeurs, selon vous, ont le potentiel de rebondir malgré l'incertitude liée aux élections législatives. 4 choix vous ont été proposés. Les valeurs bancaires, qui, on le rappelle, ont beaucoup souffert la semaine dernière. Les concessionnaires d'infrastructures comme Vinci ou Eiffage, le Rassemblement National souhaitait au départ nationaliser les sociétés d'autoroutes. Le projet a pour l'instant été mis de côté. Les utilities comme Engie ou Veolia, on sait par exemple que le Rassemblement National souhaite imposer un moratoire sur les éoliennes, voire démonter certaines installations, ou encore Edenred en quatrième position. Julien,
J'ai beaucoup de mal à faire mon choix parmi les suggestions qu'on a formulées, parce qu'en vrai, à part Engie peut-être, on peut voir du rebond sur quasiment toutes ces valeurs. Je dirais que les banques en termes de valeur à valorisation à la casse sont peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Vinci est très solide, hein, donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Et Edenred, moi, c'est pas une valeur qui est forcément hyper connue, mais moi j'aime beaucoup cette valeur parce qu'elle offre des protections contre l'inflation. Elle est en étant en forte croissance, c'est à la fois une société de qualité en croissance qui a un problème, c'est le risque réglementaire. C'est le gros problème d'Edenred. Je vais vous dire Vinci parce que c'est la société qui rassemble qui coche le plus de petites cases, si vous voulez, sur lesquelles on peut se positionner à long terme. Sur le rebond de court terme, les banques, il y a l'air quand même d'y avoir. C'est là où les valorisations sont les plus fragilisées, si vous voulez. Donc c'est là où il y a le plus de potentiel.
Ouais. En tout cas, nos auditeurs et téléspectateurs ont eu du mal également à faire un choix. C'est assez partagé, hein. Les banques, pratiquement 36%. Vinci, Eiffage, 29%. Engie, Veolia, 29%. Edenred, 7%. C'est vrai que c'est difficile, hein, faire de la fiction sur les marchés dans le contexte actuel. On a retrouvé Romain Daubry, ça c'est la bonne nouvelle. Romain va pouvoir poursuivre notre conversation. Quels sont les niveaux techniques sur les grands indices et surtout qu'est-ce que ça nous annonce ?
Alors, pour finir avec ce que j'expliquais juste avant, c'est qu'en fait, quand la position ouverte s'assèche comme ça après un mouvement de baisse, c'est souvent le prémisse d'un rebond de marché et que l'intérêt est disponible, le cash est disponible pour rebondir. Dans le contexte actuel, on ne peut pas vraiment faire ces paris-là et l'indice parisien s'est vraiment mis dans une configuration de prudence. Donc, en général, ce pessimisme traduit des bons points d'entrée sur le marché. C'est ce qui s'était passé en octobre 2022 ou encore en octobre 2023. Là, on va être plus prudent. Graphiquement et techniquement, sur l'indice CAC 40, on poursuit et on arrive, à mon avis, dans la zone cible du rebond idéal après le mouvement de baisse qu'on a connu la semaine dernière. Moi, je vais vous parler du futur CAC 40 échéance du mois de juillet, puisque c'est cette nouvelle échéance technique qui est ouverte. Le niveau de 7507-530 était un point d'entrée et la zone 7744-7791 sont la cible idéale du rebond. Au-delà de 7791, on neutraliserait le mouvement de baisse, mais on ne repasserait haussier qu'au-delà de 7930. Donc voilà les niveaux à surveiller et on vaut 7737 à l'instant. Donc attention à ce rebond qui pour l'instant n'est pas étayé et c'est la lecture de cette position ouverte, de la création de l'intérêt dans les jours qui viennent qui va être important. Pour nous, c'est un niveau idéal pour se couvrir à nouveau, puisque quand le marché avait trop accéléré à la baisse, c'était un peu tard. Et le rebond se poursuit aussi, il faut le dire, parce qu'on a encore un tout petit gap baissier sur l'Eurostox, c'est-à-dire que sur la volatilité sur l'Eurostox, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de place pour que l'Eurostox monte et que cet indice de volatilité aille combler ce gap qui est situé à 17,01. Donc encore un petit peu de détente du côté de la volatilité qui pourrait alimenter un petit rebond complémentaire sur les indices. Mais attention, la zone 7744-7791 sur le futur CAC 40 nous semble un bon niveau pour se protéger ou reprendre, si on est plus agressif, des stratégies baissières pour ensuite cibler au moins les points bas récents et plus, on le verra par la suite.
Romain, Julien, Marion, une question pour vous.
On s'est beaucoup interrogé sur la trajectoire météoritique de Nvidia, on a beaucoup parlé des fondamentaux. Qu'est-ce qu'il en est de la configuration technique du spécialiste des processeurs graphiques ?
Merci Julien de la question parce qu'elle est effectivement très très intéressante en ce moment. On a détecté, alors pour ce qui est de la partie graphique, puis il y a un élément technique aussi lié à l'échéance des marchés dérivés. Il faut expliquer qu'il y avait une position ouverte, un nombre de contrats d'options sur Nvidia qui était colossal. À titre d'exemple, dans la soirée de jeudi soir, rien que sur deux prix d'exercice, les prix d'exercice sont les prix auxquels les opérateurs sur les options choisissent de faire leurs opérations, eh bien il y a une trentaine de prix d'exercice disponibles sur le mois en cours. Bien rien que sur deux prix d'exercice, le prix d'exercice 130 et le prix d'exercice 135, il s'est échangé dans la séance 8 milliards 150 millions d'euros de valeur de Nvidia en nominal. Je vous rappelle qu'une journée de bourse correcte à Paris, c'est 4 milliards. Donc imaginez les enjeux. Le mouvement de hausse, il a été alimenté aussi par cette spéculation haussière sur les marchés dérivés. Ce qui veut dire que les arbitragistes qui ont fourni des contrats d'options, des contrats d'options aux acheteurs ont en contrepartie dû acheter les titres, ce qui a alimenté cette hausse. Eux, les arbitragistes, ils n'ont pas de sens. Ces market makers qui alimentent le marché, qui permettent de rendre ces marchés d'options liquides, ils n'ont pas d'intérêt directionnel. Au fur et à mesure qu'ils achètent, enfin qu'ils fournissent l'intérêt, ils achètent les actions en contrepartie, ils n'ont pas d'exposition. Mais reste qu'au moment de l'échéance, quand les contrats meurent, eux, ils sont toujours couverts sur le mois suivant, mais ils ont une énorme position en action. Cette position en action, il va falloir la déboucler, et la déboucler probablement gentiment. Et c'est ce probablement à quoi on assiste déjà, puisque le titre a perdu 13% par rapport à ses points hauts. Alors, graphiquement et techniquement, voilà ce qui s'est passé. Déjà, graphiquement, Nvidia, elle a coté ponctuellement plus de $140 la semaine dernière, c'est-à-dire deux fois l'écart avec sa moyenne mobile 200. Vous savez ce que c'est qu'une moyenne mobile 200? C'est un repère énorme pour les opérateurs. C'est deux fois plus que la moyenne mobile des 200 dernières périodes, la moyenne des cotations des 200 dernières périodes. Elle valait 69 et le titre a coté 140. Donc, c'est un écart par rapport à une moyenne normale qui est gigantesque, d'une part. Mais en plus, jeudi soir, elle a formé ce qu'on appelle un avalement baissier, la séance a ouvert en hausse sur un nouveau plus haut, puis on a clôturé sous la bougie précédente. C'est toujours un warning à prendre en compte. Et depuis, on a ouvert deux fois en gap baissier, qui ont tous les deux été comblés, mais qui indiquent probablement la fin d'un mouvement ponctuel sur le titre. Alors, on ne parle pas de retournement de tendance, on n'a pas de figure de retournement, mais au moins une pause sur un titre qui a fait un parcours gigantesque depuis le début de l'année, avec plus de 180% de progression. Donc, on a buté contre une zone 137,50-139,80. On teste pour l'instant un support qui est en balance à 121,85. La cible suivante, c'est 116,43. Et pour nous, une zone de retracement idéale se situe entre 106,45 et 109,60. Ça sont les extensions baissières possibles sur le titre. Donc attention à un contexte qui pourrait se dégrader un tout petit peu sur la technologie américaine. On voit que le Dow Jones, pour l'instant, en attendant, est en hausse de 1%. Donc manifestement, les opérateurs changent d'indice.